Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Photographe, cinéaste qui choisit le genre documentaire. Un artiste qui sait qu'il doit faire de l'équilibrisme. Être à la fois suffisamment distant pour ne pas porter un jugement immédiat, mais montrer simplement les choses telles qu'elles sont. Et en même temps être proche pour recueillir l'émotion fugace d'une phrase, d'un regard, d'une grimace, un geste. Mardi du cinéma, Raymond Depardon par Marion Thibat, réalisation Claude Giovanetti, première diffusion sur France Culture, 17 avril 1990.
Bonsoir. On m'a demandé de faire un film pour les rencontres photographiques d'Arles. Et j'ai accepté de me mettre dans un studio avec des techniciens et de me filmer avec deux projecteurs, un pour la photo, un pour le cinéma. Je vais essayer de tenter de vous montrer des photos que j'ai faites depuis 1957 jusqu'à 1977. Je suis né à Villefranche-sur-Saône, dans une ferme, en 1942, le 6 juillet. Mes parents étaient cultivateurs, et voici l'entrée de la ferme. J'y ai passé toute mon enfance. Et c'est là que j'ai fait mes premières photos. Ça, c'est Pernaud. Un de mes premiers sujets. J'avais les chats aussi. Les canards. Ça, c'est l'appareil de mon frère, à lumière. Ça doit être mon premier instantané. Ça, ce sont mes parents, avec le premier tracteur. Mon père en train de faucher. Ma mère donnant aux poules. Ils ont toujours été très gentils avec moi. Ça, c'est le grenier. J'étais très sauvage à cette époque-là. J'aimais bien rester dans les greniers. J'aimais pas voir beaucoup de gens.
C'est un extrait des années des clics, un film que j'ai réalisé avec Roger Ikleff. Le trac du direct de se faire filmer, c'est jamais très agréable, mais je pense que je pouvais pas faire autrement. Qu'à un moment donné, il faut pas tricher, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas éternellement filmer les gens et puis se protéger derrière la caméra. Et donc à un moment donné, il faut se mettre en avant et expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui prend plaisir à me faire filmer, mais je crois que j'avais pas d'autre choix de me mettre en scène et de me montrer. Et le trac que j'avais là, je le revois comme ça du direct, de pas répéter, de pas écrire d'avance, faisait que sans doute il est passé quelque chose un petit peu qui ressemble bien à moi de cette époque. petit peu solitaire et voilà. Photographe cinéaste peut-être. Oui. Ou chasseur d'images, mais enfin non, peut-être pas, parce que ça n'existe pas. Mais photographe cinéaste, oui. Filmmaker, ça c'est Jean Rouch qui dit ça. Filmmaker, c'est un mot qui n'existe pas en français, qui veut dire des gens qui font l'image eux-mêmes, comme les caméramen. Alors peut-être c'est caméramen aussi, mais je sais pas, ça veut pas dire grand-chose non plus, caméramen. Ça veut dire des gens qui sont derrière la caméra, mais c'est pas non plus, c'est pas exactement ça, je suis pas non plus derrière la caméra. La preuve, c'est que là, j'étais devant, alors donc... Non, photographe cinéaste, c'est le plus simple, quoi. Raymond Depardon.
Cette photo me fait sourire. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et ce qui m'amuse, c'est l'imperméable. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Je sais pas. J'avais envie d'être photographe. Ou chasseur d'images. Cette carte date de 1957. Et une autre chose aussi, c'est que j'avais envie de faire du cinéma. Ici est ma première, pour mes premiers essais. Ce qui est intéressant, c'est que déjà j'essayais de faire des plans séquences. Mais c'était difficile pour moi d'être cinéaste. Je n'avais que mon certificat d'études. Et toute la famille et les voisins disaient qu'il fallait beaucoup d'instruction. Ça s'est arrêté à des essais.
Raymond Depardon, j'ai le sentiment que vous êtes très fier, vous avez été très fier d'avoir votre carte de chasseur d'images à 15 ans.
Oui, sans doute, parce que j'ai retrouvé ça dans les greniers, oui, oui. Je pense, oui, c'est une idée comme ça d'être... Je savais pas bien ce que c'était, mais être photographe de presse, quoi. Reporter photographe. Mm. Donc, je sais pas pourquoi, il y a chasseur d'images, mais enfin, deux étoiles d'ailleurs.
Ça veut dire quoi les étoiles?
Je sais pas, il y a peut-être une troisième, donc il y avait des deux étoiles.
J'ai l'impression parfois que vous préférez employer le mot image que photographie.
Oui, peut-être que c'est peut-être ce qui rejoint la photographie et le cinéma, quoi. Oui. Les images. Mais en fait, je m'en sers parce que photographie, c'est un petit peu plus... C'est plus dur.
Chasseur d'images ou voleur d'images?
Bah, les deux, forcément, bien sûr, parce qu'on est chasseur. Mais enfin, bon... chasseur, oui. Chasseur, oui. En fait, moi, je suis pas chasseur du tout. Mes parents n'étaient pas chasseurs. Mon père n'était pas chasseur. Mais on prend, oui. On prend des images, mais bon, c'est l'éternel problème de la prise d'image. C'est sûr que on prend des images aux autres, quoi. Ça c'est clair, ça c'est évident, et c'est comme ça qu'on s'exprime. Donc c'est pas simple à expliquer ça, mais en fait, on s'aperçoit très vite que c'est une façon de s'exprimer, que là derrière des gens se font des autoportraits, et c'est une façon d'être un peu miroir aussi.
D'apparence, vous êtes quelqu'un de calme, vous avez une voix douce et vous dites des choses assez dures sur la photographie. Vous dites que la photographie, c'est la chasse, la guerre, trahison des mots, trahison des images. C'est quelque chose de violent pour vous.
Oui, ça vient un peu de mon passé parce que j'étais très très jeune dans la jungle, un peu, enfin dans la ville, et puis, mais aussi dans l'actualité. Et c'est vrai que... sur le côté romantique du photographe, il y a effectivement des moments un petit peu difficiles de prendre des images aux autres, comme ça, dans des situations où on n'a pas le temps d'expliquer ce qu'on fait, qui on est. Et j'en ai ressenti, j'en ressens toujours, un malaise peut-être, et peut-être plus c'est sans doute plus pour la photographie, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je ressens pas pour le cinéma, ça. Il y a vraiment dans la photographie quelque chose qui est plus près du tir. C'est-à-dire qu'on prend l'appareil, on le met à la hauteur de ses yeux et on vise, on tire quelque chose. Et c'est aussi quand même quelque chose qui est très violent à soi-même. Et sans doute très violent à vivre. Mais bon, c'est comme ça qu'il y a un conflit. Et c'est comme ça que sans doute naît une photographie. C'est que s'il n'y avait pas de conflit non plus, ça ne serait pas intéressant. Donc je crois qu'il faut laisser le conflit. Le jour où le photographe n'est plus, il n'y a plus d'émotion, il n'y a peut-être plus de bonnes photos.
Il ne suffit pas de savoir regarder pour faire une photo. C'est vous qui dites, c'était lors d'une soirée à la SCAM, une soirée qui avait pour titre « Entre le cinéma et la photographie », ce qui vous définit très bien.
Porter le regard sur les gens. Mais en fait, encore une fois, il faut pas regarder. Enfin, une photo, ça se fait pas en regardant et puis en disant « je vais prendre mon appareil, je vais faire la photo ». C'est un mélange beaucoup plus complexe que ça.
Oui. Oui, mais je pense que ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Je pense que des gens comme Cartier-Bresson ont défini déjà avant-guerre et après-guerre, en tous les cas, qu'il fallait pas regarder pour faire des photos. C'est peut-être que je pense pas qu'un photographe ait un regard supérieur aux autres. Bon, je pense qu'il a simplement une façon, sans doute, de regarder. Ça peut se travailler. Ça peut être une chose très professionnelle, puis ça peut être aussi autre chose, quelque chose avec un peu plus d'autre chose que du professionnalisme, qu'un artisan. Mais c'est vrai que si vous regardez, techniquement, si vous regardez, c'est peut-être trop tard. Donc il y a une sensation qui est donnée, qui ne s'explique pas. Donc j'ai l'impression que un photographe, c'est quelqu'un qui ne sait pas mieux regarder que les autres. Simplement, il est un petit peu obsédé par le regard. Il y a quelque chose qui est enfoui dans sa tête, comme ça. D'où ça vient, je ne sais pas.
À cette soirée récente de la SCAM, entre le cinéma et la photographie, il y avait à côté de vous Robert Doisneau. Et Doisneau parlait justement de l'appareil photographique.
L'appareil photo, c'est un peu comme le casque pour le pompier, ça donne du courage. C'est une espèce de... baguette magique qui permet de changer un peu de personnalité. Il ne faut pas que ça donne une impression de puissance et vous permette de faire des choses qui... La lutte contre la timidité. La timidité, c'est une bonne chose, parce que quand même, sans timidité, on piétine les jardins secrets des gens, et ça, c'est mauvais. Cette espèce de retenue fait par... d'éducation, de règles du jeu très très compliquées qu'on se fait chacun, ben c'est très bien. Ça, on appelle ça la timidité ou la pudeur ou tout ce que vous voulez. L'appareil photo, c'est vrai, donne quelquefois... on dit toujours le chasseur d'images, moi dans le fond je suis le lapin, toujours.
Oui, je crois que Doisneau l'exprime très bien avec sa façon si charmante de le raconter. Je crois qu'effectivement... Il y a sans doute deux catégories de photographes. Il y a des gens qui le vivent comme un peu Doisneau, et puis d'autres sans doute qui le vivent d'une manière plus agressive, qui agressent les gens. Sans doute aussi, ils partent d'un certain malaise aussi. Non. Mais ils s'expriment par leur présence et ils agressent les gens un peu. Quelquefois, ça peut donner de bons résultats dans des photos de l'actualité où il ne faut pas être trop sentimental. Mais peut-être que, je sais pas. Le sentimentalisme et l'image, c'est encore quelque chose de très compliqué. Est-ce qu'une photographie est sentimentale? C'est pas forcément, une photographie n'est pas forcément sentimentale. Elle est quand même d'abord une reproduction mécanique. Donc, c'est sans doute le cadre et des choses comme ça, les moments qui peuvent lui donner un côté sentimental.
Vous avez le sentiment que l'appareil photographique vous métamorphose?
Oui, oui, bien sûr. Sans doute, j'aurais jamais été dans les endroits où j'ai été si j'avais pas eu un appareil photo. Ça m'a permis de voir des choses formidables. Et à la fois, je ne souhaite pas non plus... je pense que si un jeune photographe veut faire ce métier maintenant, l'itinéraire n'est pas le même maintenant que le mien, que celui de Doisneau, qui est bien sûr plus ancien, plus ancien que moi. Donc chaque génération a ça. C'est que sans doute maintenant on peut aller très vite à ce qu'on veut faire. Moi j'ai fait un long détour, un très très long détour. Je le regrette pas. C'est sans doute je suis passé vraiment. J'ai tout fait. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il y a pas une chose que j'ai pas faite. Je pense que vraiment sans aucune prétention. C'est-à-dire que j'ai commencé comme apprenti. Et c'est quelque chose qu'on fait plus beaucoup maintenant, mais vraiment, c'est-à-dire à faire tout saut de la photo, à laver les carreaux, à couper les photos pour les gens, à les donner comme ça, et à servir une boutique comme ça en province. Et puis après, assistant, mais enfin, assistant, c'est un grand mot, mais vraiment, homme à tout faire, quoi. Et puis après, pigiste, qui était assez péjoratif. En plus, photographe payé au mois, après indépendant, après directeur d'agence, après photographe indépendant. C'est sûr que c'est un long itinéraire qui fait que. On en garde quelque chose, un passé, on n'est pas. Je pense que c'est important. Alors, il y a sans doute une équation qui est très compliquée à avoir, et c'est la même chose que pour le cinéma, c'est qu'à un moment donné, le passé joue un rôle important, et à la fois, il faut être un peu vierge pour faire des images aussi. Donc, quel est le plus fort ? À un moment donné, c'est tiraillé. Donc. Je pense qu'il y a une naïveté dans l'image qui est très forte, qui est très importante. Et à la fois aussi, il faut trimballer son passé. Je pense qu'il y a des gens qui ont comme ça une culture. On le voit très bien avec des photographies, par exemple d'Europe centrale, des gens qui ne sont pas la même façon que photographiques les Américains. Quoi. Et on se sent plus près, à la fois on les comprend. Donc, il y a une culture européenne dans l'image. Quoi. Et que les Américains ont une façon de photographier... un petit peu plus différente, quoi.
Plus simple, non ?
C'est pas la même douleur, quoi. Donc il y a effectivement une certaine type de douleur. Je pense qu'il faut avoir vécu. Et à la fois, il y a aussi des gens qui ont 20-25 ans qui font des photos formidables ou comme des films aussi formidables. Donc ça s'explique pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas de règle, en fait.
Mais qu'est-ce qui fait justement une photo de pardon ?
Je pense que j'ai rien d'extraordinaire. Moi, j'ai très longtemps été plutôt complexé, comme... Et je pense que j'ai simplement revendiqué un peu ma photographie. Et que même parmi mes amis, certains, quand je choisis des photos, je les montre comme ça. Et il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt. Et il y a un moment donné, on est obligé de partir, de monter au créneau et de dire « c'est celle-là que j'aime bien ». Et puis voilà. Donc c'est assez difficile à faire, ça demande du temps. J'ai mis beaucoup de temps et avant j'ai subi beaucoup les critiques des autres. L'œil des autres, le choix des autres, la connaissance des autres. Alors c'était souvent sur des critères journalistiques ou de reportage qui faisaient que j'arrivais pas à connaître ce que... En fait, j'arrivais pas à me connaître, moi. Et je pense que c'est un peu bête, mais c'est ça. Il faut se connaître, ne pas avoir de complexe, aimer ses photos, travailler bien sûr ses photos, ses angles, et puis bon, les laisser. Alors, un petit peu les petits livres que j'ai faits, à un moment donné, je les ai comme ça laissés flotter. Et j'ai raconté des histoires avec une façon de voir comme ça, qui est la mienne.
En juin 1960, Louis Dalmas, directeur de l'agence Dalmas, me demande si je veux partir au Sahara au mois d'août pour faire une expédition. J'ai 18 ans alors. Nous commençons à pénétrer dans le Sahara. Et là va se produire pour la première fois ma rencontre avec le désert.
Vous vous souvenez de la première image du désert que vous avez eue, Raymond Depardon ?
Oui, c'est en Algérie. Oui. Il faisait très chaud, quoi, c'était au mois d'août. La chaleur, la dureté, quoi. Paysage sec comme ça, sans rien, aride. Pas d'arbres, rien. Et puis quelque chose de minéral aussi, qui continue comme ça, qui n'arrête pas, une espèce de monotonie.
Il est surprenant qu'il existe encore un peuple Toubou. Logiquement, il aurait dû être balayé ou anéanti. Les Toubous ont été souvent battus, pillés ou rasiés. Cependant, ils n'ont jamais été ni détruits ni soumis d'une façon définitive. Les Toubous Toubou vivent dans un milieu où l'individu rachète une liberté extrême par un isolement presque complet.
Une passion pour le désert.
Oui, c'est une rencontre comme ça qui s'est faite, très jeune, à 18 ans. Comme je l'expliquais, il n'y avait plus personne pour partir dans le désert, c'était au mois d'août, en 60, et puis je suis parti faire une expédition et qui a mal tourné. Et c'est ma première parution dans Paris Match. Et puis après, il y a eu différentes... J'y suis retourné souvent, et je dis toujours, c'est un endroit qui me porte chance. Peut-être que j'étais fait pour le désert, mais comme j'ai passé mon enfance, a priori, mais plutôt très heureux, à Villefranche-sur-Saône, dans la vallée de la Saône, mes parents étaient cultivateurs... Je vois pas le lien avec le désert. Quoi.
C'était plutôt des pâturages gras autour de
voilà,
vous.
Absolument. C'était vert et tout. Mais peut-être que, je sais pas, ça... C'est peut-être un lien avec cette espèce d'enfance, comme ça, un peu solitaire, un peu sauvage, un peu intérieur. Je m'y suis senti bien et puis j'ai eu envie d'y retourner. Et puis... J'ai trouvé des liens même d'ailleurs avec entre les paysans de la vallée de la Saône, les paysans français, enfin normal, et puis les éleveurs de chameaux. En fait, ça m'a semblé être les mêmes gens, un peu bougon comme ça, un peu endurci, un peu prudent, réaliste, enfin tout, parano aussi un peu comme ça, qui ont fait que je les trouvais pas tellement différents quoi, en fait.
Vous étiez à l'aise dans votre milieu.
Oui, absolument.
Vous êtes d'accord avec Serge Tubiana, qui, dans la préface de votre livre, Du désert américain, dit que le désert, c'est le degré zéro de l'imagination.
Oui, peut-être, oui. Mais en fait, moi, quand je suis dans le désert, je n'arrête pas de penser à ce que je pourrais faire à Paris.
À autre chose.
À Paris, un film, tout ça. J'arrête pas de penser, à la ville, à Paris, quoi. Et c'est drôle parce qu'on a une relation très... Sans doute j'ai la même chose aussi avec le désert, une relation comme ça, haine-amour avec le Paris, puis sans doute avec le désert. C'est-à-dire que dès que j'y suis, il y a des choses qui m'agacent aussi. C'est vrai que c'est dur de tenir, quoi. Parce que je suis pas africain, parce que je suis pas complètement quand même... Je serais capable d'y vivre, j'y ai déjà vécu. J'y ai vécu 8 mois quand même.
C'est difficile à photographier le désert ?
Très très dur.
C'est pour ça que vous l'aimez ?
Oui, j'aimerais bien faire un livre de photos sur le désert, enfin un vrai, je sais pas, quelque chose de publié, j'y arrive pas. Alors je me dis, est-ce que c'est en couleur, est-ce que c'est avec des grands formats, des chambres, est-ce que c'est au 24-36, je sais pas. Alors que j'arrive à faire un film, mais j'arrive pas à faire des photos. Je crois que c'est très dur. Photographier le désert, c'est quelque chose de le plus dur. Il y a un espace, il y a un temps, il y a quelque chose d'insaisissable. Je suis pas satisfait de voir des livres, là, des revues, ou je vois des déserts comme ça, un peu carte postale avec des grandes dunes. C'est pas non plus les dunes, c'est pas non plus des danses folkloriques. C'est difficile, mais il faut s'y attaquer. Bon, ça va venir.
En automne 1963, je suis parti au Venezuela comme caméraman. C'était mon premier film. Un film pour la télévision, un reportage sur les événements du Venezuela. Tourné avec une Ariflex, à l'époque avec un fil synchrone entre le preneur de son et le caméraman, c'est mon premier film de reportage.
Caracas, c'est la succursale du ciel, dit un vieux dicton. Mais cette opulence n'est que superficielle. Car ce pays immensément riche, où l'essence ne coûte que 10 centimes le litre, est un pays riche, peuplé de gens pauvres.
La suite de cette expérience au Venezuela. Je suis déçu par la télévision. Je ne vois pas de grande différence avec la presse.
On dirait un feuilleton, c'est un reportage.
Oui, c'est en 63, donc c'était l'époque de Saint-Colonne, tout ça. On montait ça comme ça, mais c'est intéressant pour voir, bien sûr, c'était pas ça que je voulais, quoi. Je pense que...
C'était quoi votre déception ? quand vous dites que vous avez été déçu par la télévision?
C'est la déception, c'est-à-dire que tout ça m'échappait. J'étais seul avec une caméra, et puis ça tirait de partout, et puis il n'y avait plus personne, et puis j'ai fait des images, et puis ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, terre à terre, et puis ces images sont passées en générique d'émission, il y avait une vingtaine de noms sur un déroulant. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, le cinéma, ou la télévision. Bon, mais c'est vrai que je pense que ça m'intéressait pas parce que j'étais malheureux.
Pourquoi?
Peut-être que j'aime ce que je fais, moi.
C'était pas assez singulier.
Ouais, c'est-à-dire que j'avais l'impression... j'avais pas envie de travailler pour les autres. Enfin, il faut être honnête, j'avais pas envie de travailler pour faire des films pour les autres, d'être un caméraman, et puis que les gens... Après, revendique la paternité du film. Donc, je me suis dit, au moins, photographe, c'est... ou alors, il faut faire ses films soi-même. Il faut absolument être auteur soi-même. Sinon, ça ne veut rien dire, quoi. En fait, je l'ai trouvé beaucoup plus tard, moi, cette dimension. Mais à l'époque, je ne savais pas. Je savais que j'avais envie de faire la caméra. J'avais envie de faire des films. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. Sans doute que aussi ça venait que, je sais pas, j'arrivais un peu au bout de cette photographie de reportage, j'étais pas très content, j'y croyais pas tellement moi-même. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression de ne pas être un bon photographe. J'ai ce sentiment de ne pas être un photographe important. J'en discute, j'en parle, j'ai fait quelques photos comme ça, mais j'ai toujours ce sentiment-là. Que la photographie est quand même quelque chose. À la fois, j'attache trop d'importance à la démarche, à peut-être autre chose que la photographie elle-même, c'est-à-dire tout ce qui est autour. Avant, après, l'objet qui entoure la photographie. Ça, c'est important pour moi. Bon, je fais des photographies, je crois que ça m'est nécessaire d'en faire. Ce serait pour moi la mort si j'en faisais plus. Mais je pense que le cinéma aussi m'apporte quelque chose.
La caméra, j'ai envie d'en faire encore, de nouveau. J'avance, je marche. Le résultat n'est pas toujours très bon, mais je cherche les plans séquences. Chose qui allait être très importante pour moi plus tard. J'avais lu dans les cahiers du cinéma que Leacock avait dit que les photographes étaient les meilleurs caméramans, car ils n'étaient pas préoccupés par la beauté de leurs panneaux ni de leurs travelling.
C'est vrai, ça, Rémi?
Oui, c'est vrai, absolument. Ça reste toujours vrai.
Ce sont les meilleurs caméramans?
Je ne suis toujours pas un bon caméraman, parce que je ne réussis jamais des panneaux comme il faudrait. Il y a du virtuose là-dedans, vous savez. C'est comme en photographie, il y a des virtuoses, quoi. Il y a des grands virtuoses, mais c'est pas pour ça que... C'est pas pour ça que c'est meilleur, quoi. Ça peut rassurer les jeunes, en tous les cas, qui m'écoutent, qui nous écoutent, là. Il y a toujours des virtuoses. Il y a des virtuoses, il y a des gens qui font des travelling fantastiques, des choses comme ça, quoi. Ce sont des très bons caméramans. Il y a des très bons photographes comme ça, virtuoses, mais c'est autre chose, quand même. Je crois que le cinéma et la photo, c'est autre chose que de la virtuosité ou de une performance, quoi.
Alors, c'est quoi, tout de même, cette différence?
Entre la photo ou...
Et le cinéma?
C'est peut-être l'écoulement du temps réel. Parce que le temps n'est pas le même. Et puis c'est le son aussi. Je pense que c'est le son. C'est une troisième dimension, là. Qui était pour moi inconnue jusqu'il y a 10-15 ans. Je savais que le cinéma direct, ou le son, en tous les cas, était important. Mais c'était pas ma préoccupation. J'écoutais pas, quoi. Puis d'un seul coup, je me suis mis à écouter. Je me suis dit qu'il y avait une relation très, très importante et très forte et qui était nécessaire au même moment. Bon, ça a correspondu à tout ce mouvement qui a été le cinéma vérité, etc. C'est une espèce de vérité, quoi, comme ça. Qui s'invente pas, quoi. Qui fait que le hasard. Et la technique a suivi. Et maintenant, bon, on voit maintenant du cinéma direct de partout. Et je pense que c'est peut-être ça, mais... C'est pas que ça non plus.
Mais vous parlez tout de même, vous avez longtemps parlé d'un conflit chez vous, entre l'appareil photo et la caméra. D'attiraillement. Oui. On a l'impression que c'est ce qui vous définit, d'être entre la caméra et l'appareil photo.
Oui, comme d'être un peu entre la réalité et la fiction aussi. Mais oui, je ne sais pas. J'aime bien la photo, c'est un côté art solitaire comme ça. Je sais pas, c'est un truc très solitaire.
C'est du panache.
Et puis le cinéma aussi, un côté comme ça. Joie. Que j'ai du mal à retrouver d'ailleurs. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal parce qu'on est obligé de tourner en couleur maintenant, etc. Mais le noir et blanc, j'aimais bien. Mais bon, ça c'est fini, il ne faut pas être passéiste. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il faut toujours qu'il y ait de la joie quelque part, malgré qu'on extériorise une certaine douleur. Moi, je dis toujours, ça va pas, c'est pas bien. Bon. Toujours jouer mon temps en disant j'étais pas content. Et c'est vrai que j'étais pas content, parce que c'est tellement difficile à saisir cette espèce d'instant comme ça. Des instants, ça n'existe pas, quoi.
C'est pas une coquetterie.
Non, mais surtout, moi qui ai fait un petit peu, qui ai abordé, qui continue d'aborder les différentes possibilités du cinéma et de la photo, en tous les cas du cinéma en ce moment, je peux dire qu'effectivement le reportage, enfin la photographie, qui est saisir un petit peu des instants comme ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est moins sécurisant que de faire un film fiction. Il n'y a rien de plus difficile, quoi. Il n'y a rien de plus difficile que l'idée qu'on vous donne des photos à faire, ou que vous alliez faire des photos, même si on ne vous les donne pas. Il y a quelque chose de complètement... On ne peut pas percevoir. Donc, il faut effectivement avoir, à un moment donné, avoir confiance en soi. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrive, quoi. C'est-à-dire une espèce de paix en soi, parce qu'on ne peut pas non plus fonctionner toujours en disant « je suis le plus mauvais », etc. Tout ce que je fais, ce n'est pas bon. Parce que, bon, ce n'est pas non plus positif. Donc, il y a un moment donné, il faut se dire « bon, bah, c'est comme ça ». C'est comme ça, il ne faut pas tricher, c'est comme ça. Et il faut essayer de faire avec et de montrer effectivement une certaine beauté, de donner une différence, de faire que les gens qui passent toujours au même endroit, qui habitent au coin de la rue, peuvent voir d'un seul coup ce qu'ils ne voient pas ou ce qu'ils ne veulent pas voir, ou ce que moi je ne vois pas non plus. Parce que l'appareil me montre des choses que je ne vois pas. Je crois beaucoup à l'inconscient, comme ça, des choses qui sont vues par l'appareil et qui ne sont pas par moi. Parce que moi, j'ai des préoccupations comme ça, terre à terre, quoi.
Raymond Depardon, plan séquence. C'est un mot très important pour vous. C'est une réalité très importante.
Oui, c'est une... même si j'en fais un peu moins maintenant, parce que c'est quand même quelque chose de difficile à tenir. Le plan séquence, c'est quelque chose qui est quelque chose qui ne triche pas. Qui a un début et une fin, et qui est un petit moment de vie où on voit que ce qu'a fait le caméraman et ce qu'il a vu dans son intégralité. Et donc les gens le sentent, et c'est sûr que c'est quelque chose qui fait partie un peu de, je dirais presque du gauchisme du cinéma. Alors que maintenant on peut un peu s'en débarrasser, mais c'était toute cette époque des années 60-70, quoi. Quand je dis du gauchisme, il y a quelque chose de 68 art là-dedans. C'est pas quelque chose qui me touche, 68, moi. Mais j'en parle d'autant. C'est une qualité politisation. Engagement. Il y a un engagement politique dans le plan séquence.
Mais quelle est la cause défendue par le plan séquence?
Mais je sais pas. Il y a quelque chose de cassé, quelque chose de révolté contre le cinéma américain, contre le grand cinéma, c'est la nouvelle vague, c'est de dire qu'avec une petite caméra, je peux faire aussi bien que vous. Il y a quelque chose comme ça, d'un engagement politique, qui est politique au niveau de l'image, quoi. Donc c'est tout un mouvement maintenant qui n'existe plus, parce qu'on n'a plus de raison de se bagarrer comme ça. Mais le plan séquence, c'était un militantisme, voilà.
J'espérais que la télévision allait prendre la relève d'un certain photo-reportage, et à Gamma, nous espérions justement, pouvoir faire les deux. Nous sommes partis au Biafra en 1968. Give me money.
Mets de l'huile dans ma lampe et je serai heureux. Il chante aussi les chansons de l'armée anglaise.
Goodbye.
Qu'il allait faire cette photo terrifiante de moi au Biafra. Très longtemps, j'ai eu du mal à la regarder. C'est moi qui suis en train de filmer ici, un petit Biafra. Je trouve qu'elle résume bien la situation de cette époque.
De quelle photo s'agit-il, là, Raymond de Barnon?
C'est une photo que Gilles Caron a faite au Biafra, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est mourant, complètement à l'agonie, qui est par terre, et je suis au-dessus de lui avec une caméra.
Vous êtes en train de le filmer?
Je suis en train de le filmer, oui. Et c'est vrai que ça montre bien le côté vampire du journaliste. Mais bon, moi, je la prends. Moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à la regarder, à la voir pendant très longtemps. En me disant, c'est. Bon, à la fois, j'apprends aussi comme dérision. Faut avoir une dérision de soi-même, il faut se connaître. C'est-à-dire que c'est pas moi, là. C'est tout le métier du photographe. C'est le travail du témoin, enfin, entre guillemets, quoi. Avec toute son ambiguïté, quoi.
Mais en même temps, est-ce que la suite de cette photographie, est-ce que ça n'a pas été un de vos documentaires qui s'appelle Reporter, qui est une sorte d'analyse du métier de photographe?
Oui, à la fois d'une contre-analyse, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement l'aspect parisien un peu comme ça, chien écrasé du métier de reporter, parce que pas seulement que celui qui prend les avions et qui fait les grands reportages, mais aussi celui qui travaille à Paris, là, qui fait les conseils des ministres et tout, les petites histoires. C'est pas seulement un regard sur les journalistes et les photographes, c'est aussi un regard sur la classe politique, c'est surtout le show comme ça qui est montré, une espèce de show permanent, enfin d'exhibitionniste, quoi.
Mais vous l'avez ridiculisé, le photographe?
Non, je crois pas. Non, c'est simplement qu'il veut pas se voir. Il n'y a pas de caricature. Et ça se tourne à la caricature, bien sûr, parce qu'ils sont caricaturales eux-mêmes. Et puis, c'est vrai que les photographes aussi, il y a un côté bouffon. C'est-à-dire comme ça, on les fait rentrer, on les fait sortir, les hommes politiques les acceptent, ils sourient, mais on les aime pas beaucoup parce qu'ils parlent beaucoup, ils font du bruit, c'est pas sérieux comme la presse, mais à la fois c'est très demandé, parce que la presse, la photographie c'est important. Et donc il y a une espèce de courtisan, et à la fois c'est aussi un petit peu à la limite des voyous, on sortirait pas avec un photographe, quoi.
En 1970, en janvier 70, avec Michel Honorin, Gilles Caron et Robert Pledge, nous étions partis à travers la Libye pour essayer de rejoindre les révolutionnaires du nord du Tchad. Et j'écrivais cette carte postale à mes parents. En route pour le Tibesti, partons pour le désert, quelques difficultés techniques, tout va bien, embrasse tous, Raymond.
Regardez bien. C'est maintenant que l'embuscade va commencer. Dès les premiers coups de feu, un combattant est tué à l'intérieur de l'école. Personne ne s'approche des ouvertures, les combattants pris au piège ne ripostent plus. Gilles Caron est le premier à hurler. Journaliste. On est des journalistes français. Les coups de feu cessent. Gilles ramasse un chèche blanc et sort les mains en l'air. Cinq minutes plus tard, nous sommes prisonniers de l'armée régulière tchadienne.
Vous avez vécu là une réalité dure et vous y êtes revenu au Tibesti pour retourner un film de fiction. 20 ans après, vous y retournez pour filmer La captive du désert.
Absolument, oui, oui.
Là aussi, il y a un décalage terrible.
Ben, pourquoi pas, c'est intéressant d'être un peu témoin comme ça, reporter, puis après témoin un peu privilégié, témoin engagé un peu même. Et puis, on se dit pourquoi pas faire un film, quoi. Et puis donc, on est obligé de passer par la fiction. Et c'est en plus un exercice, quelque chose qu'il faut qu'on y arrive quand même. Parce que chez le reporter, la fiction, c'est l'ennemi. Bon, alors c'est vrai que c'est le bidon, c'est quelque chose de la reconstitution. Alors, est-ce qu'on peut faire un film de fiction sans fausser, sans... Et qu'est-ce qui vous reste 20 ans après d'avoir été témoin comme ça, comme photographe, caméraman et tout? Qu'est-ce qui reste? Donc il y a des choses qui ont disparu. Les rebelles sont devenus présidents, les présidents ont changé.
C'est le grand renversement.
Les otages.
De pardon fait de la fiction.
Les otages sont libérés, donc on se dit tiens voilà, on va se confronter, on va voir. Et puis il faut y aller quoi, il faut y aller à la fiction. Alors il y a des gens qui croient que c'est encore du documentaire, mais en fait c'est pas du documentaire, c'est vraiment tout est reconstitué, refait bien. Simplement, je crois qu'il faut. Il faut se défendre, il faut se battre.
En 1974, mon reportage me permit d'approcher du candidat Valéry Giscard d'Estaing et de faire un film sur sa campagne, comme j'avais vu celle en 1960 de Kennedy, faite par Leacock.
Il avait quatre.
Non, ça, c'est l'autoroute de Narbonne.
Et la liaison, alors, avec Barcelone et Narbonne, c'est 77.
C'est 77, oui.
Oui, je tiens.
Ça sera quand même un grand...
Ah, ça, c'est... Nous l'attendons avec impatience, parce que nous étions au fond de la
place. Complètement.
Surtout avec nos productions de fruits et légumes. C'est plus important pour nous.
Sur les fruits et légumes et la viticulture, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Montpellier.
Oui.
Est-ce que la presse en a rendu compte?
Oui.
Convenablement?
Oui, convenablement, oui.
Et l'indépendant, à quelle ligne dans tout ça?
Vous étiez seul, là, dans la voiture?
J'étais avec un preneur de son. C'est lui qui m'aide à me tenir, là, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais persuadé que ça n'avait aucun intérêt, cette scène. C'est vraiment une scène pour moi très révélatrice d'un certain cinéma.
D'un côté et du clos de l'autre. Du clos dans un vélo.
Ah oui, et Sanguinetti.
Et Sanguinetti, ça l'a goût, alors.
Parce que je pensais qu'ils allaient dire des choses beaucoup plus intéressantes, et en fait, c'est après.
Non.
Que je me suis aperçu que tout ce dialogue était très intéressant, comme ça.
Que la politique était là.
Oui. On s'imagine que, comme ça, dans une DS avec des motards, ils se disent des choses extrêmement intéressantes. Et en fait, on est un peu déçus.
Parce que je recevais les agriculteurs ce matin.
Oui, il aurait fallu annoncer hier qu'il y avait une heure de retard.
Eh bien, on ne l'a pas fait. Ce n'est pas une heure de retard, je l'avais dit à personne depuis le début.
Oui, Passo nous a dit que c'était à 13h quand même, mais il nous a un peu...
Ah bon, il
est un peu trompé, alors. Là.
Ah bon.
Mais c'est pas grave. Hein.
Ce film fut une expérience très intéressante pour moi. Ce fut la première fois que je pus faire du cinéma direct comme je l'entendais. Ce film reste inédit jusqu'à présent. Il reste toujours bloqué par M. Valéry Giscard d'Estaing.
M. Giscard d'Estaing n'a pas apprécié, visiblement. C'est votre début dans la carrière de documentariste.
Oui, c'est-à-dire que tout le monde découvrait le cinéma direct. Lui comme moi aussi, tout le monde, puisqu'on ne savait pas bien ce que c'était. Lui, il s'était jamais bien vu comme ça. Et moi, je ne savais pas ce que c'était le brut non plus. Et donc, c'est la découverte d'une expérience, d'une fantastique aventure... où M. Giscard d'Estaing m'a permis de filmer toute la campagne.
Une aventure piégée.
Une aventure piégée, oui, mais que j'espère un jour se dépiégera, parce que je pense que c'est un document historique qui va au-delà des problèmes politiques. Il y a une expérience humaine formidable, c'est-à-dire que je pense que jamais une caméra n'a pénétré aussi haut dans la pyramide. On y voit une réunion entre les deux tours, par exemple. De stratégie politique. D'ailleurs, il est tout à fait d'accord que le film soit montré à Sciences Politiques et des choses comme ça, quoi.
Pas au grand public.
Oui, il est un peu contre au grand public. Pour l'instant, il veut que ce film reste un peu au purgatoire. Il est plus gêné, d'ailleurs, par ses amis politiques qui sont dans le film que par lui-même, d'ailleurs.
Vous êtes redoutable tout de même, Raymond Depardon. Moi, j'aimerais bien prendre une phrase de Bernard Franck qui a préfacé. Les photographies politiques publiées par Le Monde, qui s'appellent Vues, ces photographies que vous avez faites pendant la dernière campagne électorale. Bernard Franck dit que, comme Maigret, vous ne payez pas de mine. Et comme Maigret, quand vous avez l'air idiot, c'est à ce moment-là que la réalité vous imbibe à votre insu. Il faut se méfier.
Oui, mais c'est vrai que très longtemps, je suis resté complètement un petit peu effondré par... Parce qu'il s'est trouvé que j'avais fait aussi un film sur le Matin de Paris et que M. Perdriel...
Numéro zéro
avait voulu le censurer, voulu le bloquer et tout. Et c'était mes deux premiers films. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai que je peux être terrifiant à filmer. C'est-à-dire que je n'arrête pas. Non pas que je m'approche, que je zoome, que je fais des gros plans, ni rien. Au contraire, je reste à ma distance, je reste loin. Mais c'est là où je deviens un petit peu, effectivement, peut-être dur, c'est que là où les autres opérateurs s'arrêtent, moi je continue. Et j'arrête pas la caméra, quoi.
Vous cherchez les moments creux?
Ouais, je continue dans mes moments creux, là, et je coupe pas. Et puis les gens,
se révèlent?
Oui, ça révèle. Mais c'est comme le film que vous venez de voir, Les Années des Clics, en fait, qui sert de fil conducteur à cette émission. C'est-à-dire que je mets aussi les temps comme ça un peu faibles et je ne cherche pas du tout, je ne suis pas provocateur, ni rien. Je ne cherche pas. Je ne dis pas non plus que j'ai des bonnes intentions, ça ne voudrait rien dire non plus. Je montre comme ça des images et effectivement, je suis peut-être un peu terrifiant, mais. Par la dureté de la vie, non pas par le spectaculaire. À la fois, je peux être tendre aussi. Bon, je pense que quand on filme, on a toujours une certaine tendresse. Donc, quand on filme, c'est qu'on est attiré par quelque chose et qu'il y a une tendresse. Sans doute le son, l'image grossit, fait un phénomène de loupe qui est extrêmement violent. C'est un peu difficile à supporter. Mais il est pas dans mon intention de porter du mal. J'ai un côté rapport de gendarme chez moi, effectivement, qui est un petit peu insupportable. Et moi, en ce moment, je m'exprime pas très bien. Je parle comme ça. Et c'est sûr que certaines personnes, et c'était le cas de Monsieur Giscard d'Estaing, c'est le cas de Monsieur Perdriel, ils s'étaient jamais vus comme ça, en train de se parler comme ça avec ce français, avec des fautes de syntaxe, des choses comme ça qui sont la vie. Et qui sont pas gênantes, et que les gens qui sont autour de vous connaissent. Simplement, eux, ils ont été choqués par cette façon de parler. Et je pense que ça commence à disparaître, ça. Alors, c'est vrai que la reine Elisabeth, monsieur Mitterrand, monsieur le général de Gaulle, on les empêche de faire du cinéma direct. Vous savez qu'on n'a pas le droit. C'est le micro qui est interdit. C'est pas du
cinéma. Je n'en doute pas.
Mais c'est un peu regrettable parce que on peut se demander juste dans quelle mesure c'est pas quelque chose qui appartient même au patrimoine de l'histoire française. C'est-à-dire que le son, comme ça, fait partie de notre histoire et il n'y a rien de mal.
En 1975, partant d'un tout petit communiqué publié dans le journal Le Monde, disant que 3 otages avaient été faits dans le nord du Tchad, je partis.
C'est à bord d'un simple avion de tourisme que Pierre Claustre, encore une fois, a décidé de rejoindre clandestinement le massif montagneux du Tibesti, dans l'Est saharien, où depuis le 21 avril 1974, sa femme Françoise est l'otage des révolutionnaires Toubou. Il nous fallait sans cesse échapper au contrôle aérien civil et militaire, avec le handicap des 800 kilos de surcharge pour l'essence nécessaire au retour. Après 13 heures de vol, alors qu'il ne restait plus que 20 minutes d'autonomie, nous avons eu beaucoup de mal à repérer la piste. Nous allions à nouveau rencontrer les Toubou, nomades révolutionnaires, combattants du Frelinat, en lutte contre le pouvoir de Djamena, l'ex-Forlami, depuis 1968. Nous nous inquiétons immédiatement de Françoise. Mais visiblement, aucun d'eux n'avait reçu d'instruction pour nous répondre. Le matin du quatrième jour, on est venu me dire de me tenir prêt avec mes caméras. 5 minutes plus tard, sans qu'on m'ait donné d'explication, je marchais en direction du village où j'allais rencontrer Françoise Claustre.
Françoise,
comment se passe une journée?
Que voulez-vous que je vous dise, une journée? Tu sais de penser à l'acte présent. Tu sais de penser à rien. J'attends. J'étouffe. J'étouffe tout ce que je pense. Contre tous ceux qui s'occupent pas de moi. Voilà. J'essaie de me dire que j'ai la vie, que je la garde. C'est déjà beaucoup. C'est tout. Avec tous ceux qui m'abandonnent, j'essaie de cacher mon amertume, ma rancune, de l'oublier. Souvent, je pense à mon mari, à ma famille. Ça me fait tellement de mal que j'essaie de pas y penser. Sinon, ben, je m'occupe, comme je l'avais déjà dit, je m'occupe aux petites tâches quotidiennes. Je lis un peu quand j'ai de la lecture. J'en ai pas eu pendant longtemps, mais je viens d'en recevoir. J'écoute un peu la radio. Et je prends un peu de réconfort auprès de la population qui reste bonne avec moi.
Vous qui n'aimez pas le spectaculaire, Raymond Depardon, là on est en plein spectaculaire.
Oui, sans doute, oui. C'est comme Giscard, comme le film sur le matin de Paris, c'est des scoops, quoi. Mais en fait...
Qui c'était Françoise Claustre? On se souvient de son nom, mais...
C'est une archéologue qui travaille au CNRS et qui a des zones de recherche et qui cherche à savoir... Il y a d'énormes richesses dans le bassin du lac Tchad, qui est un des endroits où les plus riches au point de vue origine de l'homme. Et qui cherchait là, qui avait des fouilles, quoi. Et puis à un moment donné, elle s'est sentie pas bien, elle était malade, elle est montée dans une palmeraie, puis dans la palmeraie, il n'y avait personne, il n'y avait pas de docteur et tout. Puis il y avait un avion qui passait là, elle est montée, puis le hasard, quoi. En fait, la malchance. Puis elle a été prise en otage, et puis ça a duré 33 mois. Et puis, voilà, je crois que c'était une histoire d'une prise d'otage moderne. Parce qu'en fait, c'est une très vieille histoire, ça, des prises d'otages, depuis très longtemps, il y en a. C'est vraiment moderne parce que c'était la décolonisation, c'était plus la même chose, il n'y a plus de conquête, mais il y a des coopérants. Et on l'a vu par la suite, quoi. Il y en a eu d'autres comme ça. Et donc on ne savait pas bien comment faire, quoi, comment répondre à ça. Bon, personne n'était bien au courant, on ne savait pas, un petit groupe armé, etc. Puis là, le journaliste aussi a une fonction, c'est difficile. Des fois, c'est sur un fil, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. On frôle même presque l'intelligence avec l'ennemi. Il y a la Cour de sûreté de l'État, il y a la carte de presse, il y a le secret journalistique, il y a l'information, il y a les êtres humains qu'on commence à apprendre, à connaître. Toute une affaire de choses qui fait qu'on est parti pendant 2 ans sur une histoire comme ça. Il faut surtout être journaliste professionnel. Il faut bien rester à sa place. Mais c'est pas facile. Et puis, à un moment donné, bon, ben, on est récompensé quand même. Enfin, on cherche pas de récompense. Moi, j'ai jamais cherché de récompense. L'otage est libéré, quoi. Et puis, bon, ben, on a peut-être un peu contribué. C'est un petit peu à faire connaître. Elle aurait été sans doute un jour ou l'autre, mais on facilite, quoi. Mais c'est vrai que pour elle, c'est difficile parce que elle voudrait oublier tout ça.
Vous la revoyez?
Je la revois pas souvent, mais on reste en bon terme. Mais elle voudrait un peu oublier ça, et c'est sans doute pas facile, elle veut pas écrire, elle veut garder le secret, ce que je respecte tout à fait. Mais il y a effectivement, dans ces rencontres, dans ces nombreuses... À un moment donné, comme ça, on garde une image un petit peu subjective, quoi, très subjective, de cette détention.
C'est le sujet de votre dernier film,
voilà.
La captive du désert.
Oui, c'est inspiré, effectivement, l'histoire, comme ça, est inspirée, mais le sujet, à l'intérieur, le film, tout ce qui s'y passe, je crois que n'a rien à voir avec l'affaire Claustre.
C'est même l'inverse, on pourrait dire presque, parce que Françoise Claustre était très violente, véhémente. Alors que Sandrine Bonner, dans le film,
je pense que ça
est
repose,
très intériorisée.
Oui, mais ça repose sur deux choses. C'est-à-dire que sur 33 mois, Françoise Claustre nous a rencontrés, puisque moi j'étais pas seul, mais nous a rencontrés à trois reprises. Et la seule chose qu'elle a eu à faire, c'est de nous parler. Donc elle n'a pas arrêté de parler. Surtout, ne plus avoir un moment de silence. Mais la captivité elle-même, c'est quand même un grand silence. Alors, est-ce qu'on peut montrer ça au cinéma? La captivité, c'est quand même un espèce d'isolement. Et avec l'isolement, il y a un certain nombre de choses. Et le désert n'est pas silencieux. Il y a beaucoup de sons. Et il peut y avoir même des choses très ambiguës dans la captivité. C'est qu'il peut y avoir presque du bonheur, une espèce de bien-être. C'est-à-dire de se retrouver soi-même, quoi. Chose qu'on fera rarement, c'est-à-dire de s'isoler. Et puis, alors effectivement, il y a une épée de Damoclès toujours au-dessus de sa tête, c'est un cauchemar. Et à la fois, il y a aussi des moments, sans doute, presque de paix.
À mon retour, j'appris la mort de mon père, qui était mort pendant mon long séjour au Tchad. J'aimais beaucoup mon père. Mon père avait beaucoup d'élégance. Je m'aperçus tard que c'était quelqu'un de formidable, tout aussi intéressant qu'un Gokuni Wadai ou qu'un Franco Basaglia.
Ça veut dire que vous avez l'impression parfois de vous être trompé, d'être allé chercher à l'autre bout du monde ce que vous auriez pu trouver ici, tout près?
Oui, c'est un peu une leçon qu'il faut toujours un petit peu... J'ai vrai que j'ai des regrets comme ça de pas avoir fait plus de photos, d'avoir fait un film sur mes parents, d'avoir fait un film sur ma ferme, d'avoir photographié plus, quoi. En fait, j'ai fait quand j'avais 14-15 ans, et puis 16 ans, et puis j'ai arrêté. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Ça, c'est simplement pour la... Je le dis un petit peu comme un manifeste par rapport à des gens qui voudraient être photographes et qui croient qu'il faut aller au bout du monde, quoi, qu'il faut aller dans les guerres civiles, et qu'il y a peut-être autour d'eux un sujet, qu'il faut toujours être vigilant là-dessus. Moi, il n'y avait pas de fuite parce que je fuyais rien. Je pensais avoir eu une enfance formidable et merveilleuse dans une ferme. On ne peut pas rêver mieux. Mais qu'est-ce qui me poussait comme ça? On se demande pourquoi. À la fois, j'étais pas fait pour être agriculteur, donc je le regrette pas. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, puis le temps a passé, et puis c'est trop tard, quoi. Et donc, il faut absolument photographier près de soi, autour de soi. Et ça, c'est toujours une constante qu'il faut toujours avoir, parce que le temps passe, et après, ça sera trop tard.
Vous avez fait deux types de documentaires. Des documentaires politiques, je pense... à 50,81%, Giscard, numéro 0, le matin, au milieu de la presse, le matin de Paris, et puis reporter. Et puis un autre type de documentaire qui concerne ce qu'on pourrait appeler la dérive sociale. C'est-à-dire que vous êtes intéressé à des univers très particuliers, l'hôpital psychiatrique, San Clemente, faits divers, commissariat de police, urgences, les urgences de l'Hôtel Dieu. Vous dites que vous y revenez toujours à votre enfance paysanne. Rien ne vous prédisposait à vous préoccuper de ces univers très particuliers. On va écouter San Clemente. San Clemente, c'est du côté de Venise.
Mais c'est une île qui est une île exclusivement un hôpital psychiatrique. Donc là, je suis avec une caméra et je suis un malade qui rentre dans un reparto, ça s'appelle, dans un pavillon qui est fermé. Oui, vous avez entendu la porte. Hein. Et la caméra suit la personne qui rentre. On rentre dans une espèce d'univers comme ça, de couloir, de chambre où il y a beaucoup de lits.
Vous suivez une dame?
Je suis une dame qui va se mettre près de son lit et qui va se maquiller un peu. Et vous allez entendre un docteur qui va arriver. Voilà. Qui me fout dehors.
Qui vous insulte.
Non c'è autorizzazione, ma chi vi ha autorizzato questa chiesa? Parla un po'. Ok, ci siamo andati. Ma che siamo andati? Non ci vergogniamo, non sapete che cosa è andato.
Ma vergognatevi, fate il favore.
Ça, c'est un plan séquence de 10 minutes, en fait 7-8 minutes, d'un malade qui dialogue avec la caméra.
Un malade qui aime se faire photographier.
Oui, qui est un très bel acteur et qui me donne d'ailleurs une cigarette. D'ailleurs, moi qui ne fume pas, je fume la cigarette en même temps que filmer.
Capisce? Questo è il loccio, questo è il loccio che ti guarda. La macchina. Macchina fotografica.
Il fossile Macae al Cinecorso. Il fossile Macae al Cinecorso. Il fossile Macae al
Ce qui est intéressant, c'est que moi je connaissais pas parfaitement le vénitien, ce qui est un peu différent de l'italien. Enfin. Et c'est pas toujours un. C'est complètement. C'est très sensé ce qu'ils disent là. Alors il y a des choses effectivement qui sont des délires un peu là. Et puis il y a des choses très très sensées. Et là, ils disent, par exemple, bon, là, ils racontent une histoire, mais à un moment donné, il va dire, je préfère rester dans mon île que d'être à Venise, parce que c'est y a trop de monde, quoi. Et pour lui, la ville, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est la folie. Et là, il y a un plan formidable, parce que la caméra monte sur l'avion.
A superiora de asi infantile. Que Alberto l'a occupata qua Pistoia. E se gane gagne in Portinelia. A superiora de asi infantile che Alberto l'ha occupata qua Pistoia e dopo si va vendicare e si va negare in Portinelia.
Pourquoi avoir fait ce film, Armand Depardon? Quand on le voit, je crois que je suis pas la seule à avoir ressenti ça, on a un sentiment de malaise. On se demande, est-ce bien utile de montrer?
Moi, je suis pas d'accord. Je crois qu'au contraire, ça nous rapproche. Ça rapproche, quoi. Ça rapproche. Enfin, ça rapproche, c'est-à-dire que. Moi, j'étais comme beaucoup de gens, j'étais jamais pénétré dans un asile psychiatrique. C'est quelque chose qu'il faut souhaiter à personne, parce que c'est quand même. Malgré que maintenant, sans doute, c'est différent. Mais il y a un côté tabou. Et que les institutions totalitaires, elles existent autour de nous. Il y en a un certain nombre comme ça qui continuent d'exister. Elles ont existé pendant les camps de concentration. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui existent. Où les hommes sont quand même relativement enfermés, privés de leur liberté, sous des prétextes divers. Et je pense que c'est un peu notre sort de témoin de notre temps, s'il n'y avait pas ces films, on n'y croirait pas.
C'est pas la détresse qui vous intéresse, c'est plus l'institution?
Non, il y a l'institution. Bon, et je pense qu'il y a l'institution qu'il faut quand même dénoncer. Ça, c'est une chose qui est plus subtile, plus sournoise que sans doute que les camps de concentration. Mais bien sûr, parce que je pense que c'est pas le lien est un peu dur, est un peu gros. Mais enfin, je pense que ça a jamais guéri personne. Ça, c'est évident. C'est pas moi qui le dis. Certains psychiatres dénoncent ça. Quoi, je veux dire, ça n'a jamais ça ne guérit personne. Donc ça sert à rien. Que la folie existe, c'est une chose. Et qu'il faille la soigner, c'est sûr. Je pense que la folie a toujours été filmée par des professionnels qui ont fait des films à caractère spécialisé. Et que aussi, je pense qu'on peut en avoir peur, nous-mêmes, en tant qu'individus comme ça, et qu'on ne veuille pas le voir. Et je pense qu'un film comme ça peut contribuer à nous approcher d'eux. Et eux de nous aussi, dans une certaine mesure. Parce qu'ils ont quand même, ils sont conscients de leur état. Ils s'en moquent eux aussi même. Donc ils ont une espèce de dérision sur eux-mêmes, sur cette folie. Et je pense qu'en voyant ce film, on a peut-être un sentiment de malaise en premier degré comme ça. Mais on s'aperçoit en fait, c'est Mais c'est pas ça le malaise. Le malaise, c'est que on s'aperçoit qu'ils sont pas si malades que ça et que qu'il suffirait de trouver quelque chose. C'est pas, j'en suis pas spécialiste, c'est pas moi qui peux donner une réponse à ça, mais que il y a pas de, on n'est pas si loin, on n'est pas si éloigné que ça. C'est vrai, il y a pas de solution, il y a pas de clé, il y a pas de, mais je me méfierais des films à thèse là-dessus et des films à message, parce que ça, je crois pas.
En tous les cas, c'est pas du voyeurisme.
Non, parce que j'ai l'impression que d'abord souvent ils me prenaient pour un fou. Vraiment, effectivement, un cinéaste, un photographe, c'est vraiment une espèce de fou là. Il est comme ça avec sa caméra, il tourne et il se dit, ça sert à rien quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait ? Et je veux dire, je pense pas que ça a apporté grand-chose de les filmer. Simplement, ça peut contribuer à l'homme. C'est un peu, peut-être un peu humaniste comme ça, un peu primaire, mais je pense qu'il n'y a aucune recherche pour moi. Et ce film le montre bien, il n'y a aucune recherche de sensationnel. Il n'y a aucune recherche non plus de scoop, il n'y a aucune recherche de performance, de quoi que ce soit. Il y a vraiment le regard le plus humble et le plus tendre possible sur ces gens-là. Et il faut un petit peu les aimer aussi.
Et vous avez fait le choix, à l'inverse des méthodes de travail du reporter, le choix de prendre le temps. Vous êtes resté très longtemps.
Je suis resté très longtemps pour faire les photos. Et puis j'ai mis beaucoup de temps à me décider de faire un film. Donc le film est très très court. Il y a pas, c'est pas de, si vous voulez, c'est un film que j'ai fait avec Sophie Ristel-Hubert. On arrivait le matin, on tournait. Et on partait le soir, on tournait tout ce qu'on voyait, on tournait. C'était pour nous, toute la vie quotidienne était à filmer. Il n'y avait absolument pas de temps fort, ni de temps faible. On filmait tout ce qu'on voyait. Et il n'y avait pas de recherche comme ça, ni d'esthétique, ni de scoop, ni de temps fort, ni de choses extraordinaires. On filmait la vie quotidienne. Et le film est monté comme ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu pour... À la fois, on n'y croit pas et à la fois, on se dit il ne faudrait plus que ça existe.
Et pour Faits divers, ça a été la même méthode.
Oui, je pense que... Alors, c'est un peu des sujets tarte à la crème, comme ça, qui peuvent apparaître comme des films un peu sensationnels, effectivement. Un hôpital psychiatrique, un commissariat de police. Mais en fait, c'était la même méthode. C'est-à-dire que je tournais tout ce que je sentais, comme ça. Et surtout sur des temps faibles, même. Des temps où il ne se passait pas grand-chose, il n'y avait rien. Et ça, j'aime bien ça, moi, comme ça. Parce que ça peut paraître tout ça, Giscard, l'affaire Claus, ses reportages, cette actualité, c'est... Ça peut paraître un peu une succession de temps forts. C'est vrai aussi, c'est des temps forts, mais ça peut paraître paradoxal, mais c'était une vie quotidienne aussi. Et que j'ai tourné des choses dans Faits divers, par exemple, sur le commissariat de police du 5e, il n'y avait rien, rien. Et je tournais, je cherchais. Il n'y avait rien, toujours rien, il ne se passait rien. C'était le silence, il y avait deux flics dans un couloir qui ne parlaient même pas, ou il y avait quelqu'un comme ça, ils discutaient, et puis il naissait comme ça une petite scène, un petit quelque chose, qui, j'ai l'impression, s'approche de la réalité. Parce qu'on se fabrique des idées préconçues. Et même moi, le premier, je m'en fabrique. Et dès que je suis confronté à cette réalité, je m'aperçois que c'est un décalage. C'est-à-dire que je suis là, déçu, je me dis, il n'y a rien de bon. Et on croit être au centre, pourtant, de quelque chose. Et il n'y a rien. Il n'y a que des histoires sans intérêt, bavardes, compliquées, on ne comprend rien. C'est pas dans le film, c'est pas dans la caméra. On est arrivé trop tard, on arrive trop tôt, etc. Bon, on a ce côté, il y a un côté cuisine, quoi. Donc on s'aperçoit, finalement, que c'est pas bien. Et puis, donc, à un moment donné, on a envie de dire, ben, c'est comme ça. Voilà, il y a un certain désordre, il y a ces moments, c'est impressionniste. Et c'est, je pense, que ce qui fait la différence de mon cinéma, du cinéma anglo-saxon, qui est toujours un cinéma qui repose sur des thèmes, les gens ils discutent très longtemps, ils suivent, ils font une histoire qui ferme à fond. Picture story, comme une histoire, comme ça, ils vont filmer les gens chez eux, ils vont suivre pendant des mois... un cas, un problème, etc. Ils vont en faire un film, ils vont mettre des micro-émetteurs et tout. Moi, c'était pas ça. C'est beaucoup plus comme ça, je passe.
En même temps, vous passez, mais vous arrivez à filmer et à enregistrer des scènes tout à fait étonnantes. Par exemple, celle-ci, c'est dans Faits divers.
Bon, alors, nettoyer. Et nous allions passer la nuit. C'est alors qu'il nous a donné une claque. Donc les coups que vous avez reçus, c'était après avoir fait l'amour, c'était pas avant. On est bien d'accord. On vous tape dessus après, pas avant. Oui. Bon.
C'est un commissaire de police qui interroge une...
Qui tape son rapport.
Qui tape son rapport.
Mais c'est incroyable parce qu'on a le sentiment que c'est un comédien. On a l'impression que c'est une mise en scène.
Un peu comédien quand même, un peu. Mais bon. Pourquoi pas ?
C'est pas un temps faible ça, c'est un temps fort.
Si, il y en a tous les jours. Tous les jours, et je vous assure que sans demain matin, ni aucun quotidien, ni le quotidien, ni le Parisien Libéré, qui est pourtant le journal des faits divers, n'en parleront. Ni à la télé, ni rien. Ça n'intéresse personne.
C'est... Il y a encore des métros là, c'est bon là. Bon, puis si, hein, c'est ici. Hein. Si vous avez des problèmes, toujours venir en parler. C'est pas la peine d'aller faire la mouille avec les garçons et faire des bêtises, hein. On se connaît maintenant suffisamment pour que s'il y a des histoires ou des difficultés, vous veniez me voir. Mais c'est pas moi qui vous m'avez pardon, c'est à l'autre. Vous venez le faire d'ailleurs, tiens, venez vous voir Zozo, là.
Vous venez, monsieur.
Oui. Allez, excusez-moi. Hein. Allez, je crois que mademoiselle s'excuse des difficultés qu'elle vous a apportées ce soir. Et de votre côté, je crois que vous avez un peu...
Je peux m'excuser, oui. C'est de la gifle que j'ai donnée.
Je m'en vais vous faire la bise, parce que ça, c'est peut-être un peu beaucoup.
Ça va, non.
Non, c'est... Non, rajoutez pas. Mais non, il faut que je vous entende, maintenant. C'est encore... Vous êtes en garde à vue, mon petit. Maintenant, il faut que ce coup de peau, votre histoire, recoupe la sienne. Bon, allez, la sortie, c'est par là. Le monsieur va vous raccompagner. Et recommencez pas, hein.
En même temps, Raymond Depardon, vous avez un peu réconcilié la France avec... ces flics.
Ben moi j'étais comme tout le monde, j'avais un peu peur d'eux. Je me disais oula, mon Dieu, passer 2-3 mois avec eux comme ça. Et puis au moins on s'aperçoit qu'en fait ils ont des fonctions tout autres qu'on peut penser d'ailleurs. Donc il y a effectivement du maintien de l'ordre qu'on connaît, qui est pas très très agréable. Et puis il y a aussi tout un côté d'assistance publique. Et qu'il y en a qui s'en sortent bien parce qu'ils sont plus psychologues comme ça, et qui ont certaines valeurs humaines, et puis d'autres pas du tout, qui ont impatience. Mais il faut pas rêver, c'est certain que la bavure policière, j'allais pas la filmer, l'homicide non plus, donc c'était une succession où j'avais pas grand chose, quoi. Enfin, j'avais que des petits trucs comme ça, des petits faits divers ratés, et c'est ça qu'il faut filmer. Ça peut paraître évident comme ça de filmer, comme ça, effectivement, une fille qui est interrogée par un commissaire, comme ça, mais. C'est le résultat de beaucoup d'attentes et beaucoup d'ordres. Il faut pas les rater aussi, celles-là. Donc on pourrait passer à côté, quoi. En l'occurrence, là, c'est un faux viol, comme ça, tout banal, tout. Bon, on se dit, c'est même pas quelque chose. Ils vont même pas. Il n'y a même pas de plainte, puisqu'il n'y a plus rien. Donc ils repartent 2 heures après, ils repartent dans la rue, quand même. Donc en fait voilà, une soirée comme ça d'un commissariat, donc c'est assez proche quand même des choses de Siménon, des choses comme ça, quoi.
Mais pourquoi tout de même vous en revenez toujours au moment de détresse, puisque là vous avez tourné il y a pas si longtemps un documentaire Urgence, c'était en 87.
Oui, c'est de montrer une certaine peut-être une douleur comme ça qui n'est pas la même que sur les films de fiction qu'on voit grand comme ça, où les gens... qui est spectaculaire, quoi. Une autre douleur. J'utilise le mot volontairement douleur, là. Et c'est plutôt au sens tout bout. C'est-à-dire que les tout bouts, vous savez, le matin, ils vous disent comment ça va, avec la douleur. C'est-à-dire qu'ils se servent d'un mot douleur, un peu comme les paysans, c'est-à-dire que c'est un mot assez léger, hein. C'est gentil, quoi. Comment ça va avec la douleur ? C'est une douleur comme ça, générale. Bon, c'est pas le sens du race. Hein. C'est pas la douleur de la résistance, quoi. Et donc, il y a effectivement une multitude de petites douleurs tous les jours dans la ville, quoi.
Alors, vous savez pourquoi vous êtes gardé à vue par la police ? Vous savez pourquoi vous êtes gardé à vue par la police ?
Je ne sais pas.
Non, pas du tout.
Absolument pas. J'ai rien fait.
L'hôtel Dieu.
C'est déjà arrivé de te garder comme ça ?
Absolument pas.
Alors les policiers disaient tout à l'heure qu'il y avait eu une bagarre. Vous voyez de quoi il s'agit ?
Puis savoir, puis pas savoir.
Service des urgences.
Puis pas savoir.
Voilà.
Du tout.
C'est un psychiatre, une femme psychiatre.
Vous vous rappelez pas, vous êtes bagarré ?
Pas du tout.
Là, moi, je suis docteur Baron, je suis médecin psychiatre.
Ah bon ?
Vous avez déjà vu des psychiatres ?
Non.
Jamais ?
Non.
La police se demandait si vous aviez bu aujourd'hui.
Absolument pas, je ne bois pas d'alcool.
D'accord. Et il vous arrive de prendre autre chose, de la cocaïne, du hache ?
Ah, je suis arrivé, je suis, j'attends, et voilà. C'est... Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Parce que la loi, elle a le droit de faire tout. Mais moi-même, je n'ai pas le droit de rien du tout.
Oui, c'est-à-dire ?
On n'a pas le droit à ça. Alors moi, j'attends, je vois.
Là, il est en train de claquer les mains.
Voilà.
C'est une manie. Ce que j'ai fait, j'ai craché sur sa vitrine. Et puis, je sais pas, peut-être j'ai peut-être poussé un peu trop fort. Mais ça, c'est aussi la fatigue nerveuse. J'ai pris ma chaussure. Et puis, j'ai tapé sur sa vitre deux fois. Puis la troisième fois, j'ai fait un petit trou.
Alors, c'est le propriétaire du bar qui a frappé le chien.
Voilà. Et moi, j'ai cassé sa vitrine à cause de ça. À cause qu'il a frappé ce chien. Tout ce que je vous ai expliqué.
Là, vous voyez, le son est très bon, là, parce qu'il est fait par un ingénieur du son professionnel.
Je ne touche jamais personne.
Pour la première fois,
je ne frappe jamais personne, je me contrôle toujours sur moi-même.
On a travaillé à deux.
Et quand ça pète, je préfère casser des bouteilles par terre, foutre des poubelles par terre.
Ça vous arrive de faire ça ?
Ah oui, mais je ne touche pas les gens. Les vitrines, non, pas souvent. C'est la deuxième fois. En quatre ans, la troisième fois. Une fois à Paris, tout pas très loin, dans le même, sur Beaubourg, le quartier Beaubourg. La deuxième fois ici, puis une fois en Bretagne.
Et à chaque fois, vous n'avez pas eu de problème quand vous cassez des vitrines?
Si, on m'emmène au commissariat à chaque fois.
Oui, qu'est-ce qui se passe après?
Je ne sais rien. Hein. Pardon?
Qu'est-ce qui se passe après?
Bah après, ce qui se passe bah, là, aujourd'hui, je ne sais pas, on m'emmène là après, parce que je suis enceinte. C'est pas la même chose, c'est la première fois que je suis enceinte. Enfin, la première fois que je casse une vitrine enceinte, je veux dire.
Vous allez vous faire foutre, c'est tout. Vous allez vous faire enculer, vous allez vous faire baiser, j'en ai rien à foutre. C'est tout.
Ouais. Alors vous ne voulez pas nous dire donc à qu'est-ce que vous êtes arrivé ?
Allez vous faire enculer.
Bon.
Baiser.
Alors, la police me demande un examen de comportement.
Ta gueule.
Alors je vais vous envoyer à l'infirmerie.
Ta gueule, mais...
Hein ? Vous ne voulez pas coopérer, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes arrivé, vous serez là-bas pour une période d'observation. Hein? Donc vous êtes prévenu, vous serez à l'infirmerie.
J'en ai rien à foutre.
D'accord, bon, alors je fais une lettre pour l'IPPP. On va
se faire foutre.
D'accord.
Bon, hein?
Oui.
Vous arrêtez la caméra?
Oui. Pourquoi vous avez quelque chose à me dire?
Oui.
Mais pourquoi pas le dire
Moi, je sais que j'ai joué, j'ai perdu. Puis bon, je suis prêt à ce que vous voulez.
Qu'est-ce que vous avez joué?
Bah, ma vie, hein.
Et vous avez perdu?
Bah, c'est peut-être idiot, mais... C'est peut-être rien pour vous, mais c'est tout pour moi. Enfin, c'est...
Vous êtes pris à témoin, là, Raymond Depardon.
Oui, oui, oui.
Malaise ?
Non, non, c'est donner la parole à des gens, là. Des gens qui souffrent et qui veulent parler, quoi. Et qui, à la fois, sachent à chacun leur manière... Le psychiatre est là pour toujours bien pouvoir les écouter, parce que c'est quand même assez difficile. Ou des fois, il y a des gens qui se confient à la caméra. Et c'est une espèce de violence, comme ça. Alors, on dit, ah bah oui, voilà, voyeuriste, etc. Mais non, pas du tout. Tous les gens ont vu le film, tous les gens qui ont été filmés, ils ont signé. Ils avaient envie de s'exprimer. C'est une solitude, là. C'est vraiment la solitude de la ville, de notre société, quoi. Il y a des gens qui sont à bout. Et pourquoi pas une caméra, là, bon, pourquoi pas s'exprimer? C'est des gens qui n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer, qui n'ont rien. Personne ne s'occupe d'eux, ni rien. Ils sont sur la frange, sur la limite et tout, ils craquent, quoi. Et c'était impressionnant ce séjour de 3 mois qu'on a fait avec Claudine Nougaret, parce que on s'est aperçu qu'en fait on a rencontré des gens qui étaient des voisins, des gens presque de notre famille. C'est des secrétaires, des chauffeurs d'autobus.
Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, dans la critique, parlent dans vos documentaires de l'obscénité du réel ?
Oui, bien sûr, c'est vrai que le réel est très très dur, mais c'est vrai qu'aussi il y a façon de filmer. Il y a des moments où on s'arrête, il y a une question de morale vis-à-vis de soi-même. Il y a des choses qu'on peut pas montrer, il y a des choses qu'on montre pas, il y a des choses que je filme pas. Ça dépend comment c'est montré aussi tout ça, parce qu'on a quand même suivi, on revoit sans arrêt les docteurs Grivois qui s'occupent des urgences de l'hôtel Dieu. Et là, hier, on a appris que quelqu'un qu'on avait filmé, qui allait mieux, s'était suicidé. Donc, je veux dire, tous les jours, bon, et je connais les noms des gens, de tous les gens qui ont passé, là, leurs noms propres, ce qu'ils sont, etc. Donc, un petit peu de les faire connaître. Je dis pas que c'est vrai qu'on peut pas non plus faire un film comme ça tous les 5 minutes et puis le passer à la télé tout le temps, quoi. Mais à la fois aussi, on peut pas non plus ne pas le faire. Parce qu'il faut le montrer. C'est vrai que le réel a quelque chose d'obscène, mais c'est on se déporte trop là, parce que on conserve que les écrits, hein, et que les photos et que certaines interviews, et on sait très bien que les interviews sont fausses. Hein, c'est vrai, ce que je dis, ce que je veux là, c'est pas pareil. Et puis on déporte notre histoire là. C'est-à-dire qu'un jour, dans 100 ans, 200 ans, et les gens vont se pencher sur 1990, on va s'apercevoir certains témoignages, et ça sera faux. Si on n'a pas filmé les urgences, si on n'a pas filmé faits divers, si on n'a pas filmé Saint-Clément, si on n'a pas filmé certaines choses, on va dire, tout allait bien. Tout allait bien, c'était une idée, quoi. Les rapports étaient faux. Donc, bien sûr, il y a des chiffres, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil les chiffres, c'est pas pareil. On sait pas comment. Il faut quand même enregistrer un petit peu notre histoire, quoi.
Alors pourquoi le désir de fiction ? Pourquoi la captive du désert ?
Ben oui, parce que on peut pas non plus. Je peux pas faire que ça, moi. Je peux pas filmer que ça. C'est très lourd à filmer. Je mets 2 ans à m'y remettre, moi, ce genre de choses comme ça. D'abord, faut aller répondre, faut aller faire des débats, faut aller faire des projections, faut dire non, je ne suis pas voyeur, ou si, je suis voyeur, je fais ci, je fais ça, mais...
Faut justifier.
Bon. Mais j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a un vide. C'est vrai que là, aujourd'hui, je me dis qu'il faudra bien en refaire un, je sais pas sur quoi, sur où, et bon, c'est pas facile, parce que il y a des milieux qui veulent pas être filmés, non pas que les gens veulent pas être filmés, mais par exemple la justice. C'est impossible. Bon. Alors, il faut quand même continuer à défendre. Bon, même si c'est imparfait, si c'est loin d'être complet, et c'est purement des petits regards qui ne se veulent pas le plus que ça.
Raymond Depardon, pourquoi la fiction ?
Ben, la fiction, parce que c'est peut-être aussi pour aller un petit peu dans le passé, quoi, dans sa mémoire. Et donc, il n'y a que cette formule.
Alors, je vous propose d'écouter des rushs, puisque le film va sortir... de votre film La Captive du désert. On dit votre premier film de fiction. Il y a eu entre les deux tout de même Une femme en Afrique.
Oui, mais les gens ont toujours vu comme une autobiographie.
Alors... Bon, premier film en tous les cas avec une comédienne, Sandrine Bonnaire.
24 sur 1, première. Action.
Bonjour.
Vous reconnaissez la scène ?
Oui, ce sont deux petites filles tout bout qui viennent apporter des crêpes à Sandrine. C'est la première fois que les habitants du campement de Nomad viennent la voir. Et c'est souvent des enfants qui jouent le lien comme ça.
Et Sandrine Bonnaire est otage.
Voilà, Sandrine Bonnaire est sous une hutte et puis il y a deux petites filles et un garçon qui viennent lui apporter des crêpes.
Toi qui les as faites ? Oui.
Très bonne.
Ça montre qu'il y a aussi un captif, une captive peut sourire.
Comment tu t'appelles?
Dobby.
Dobby?
Oui.
Et toi?
Barkamaji.
Quoi?
Barkamaji.
Barkamaji.
Barkamaji. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu naturellement ni de télévision ni de cinéma et qui étaient formidables.
Annonce 24 sur 1, deuxième.
Et oui, au cinéma, on recommence ah, là.
Oui, on recommence, bien sûr, on peut recommencer. Mais...
C'est nouveau pour vous de recommencer une scène
là. Oui, sans doute, c'est peut-être ce qui fait une différence, mais. C'est... En fait, non, j'avais déjà recommencé. Comme photographe de presse, on recommence souvent. C'est...
Ah, des crêpes.
Mais j'imagine que ça a dû vous troubler de faire. De tourner avec une comédienne, parce que là, vous êtes très loin de ce que vous aimez, du parler frais, c'est ça, votre terme?
Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'aussi, là, c'était... J'essayais de pas de faire une reconstitution. J'essayais pas non plus de rejouer des dialogues. Elle était toute seule, donc elle pouvait parler avec les petites filles, mais ça s'arrêtait là. Donc ça, c'était facile à écrire et à travailler ensemble. Et en tous les cas, c'est un partenaire, Sandrine, qui a été formidable durant le tournage, qui n'avait jamais été en Afrique et qui s'est retrouvé comme ça pendant 3 mois dans un campement relativement précaire, parce que je le voulais. Donc c'était vraiment, on était une toute petite équipe, c'était la saison chaude, un tout petit village qui était acteur, et puis bien sûr le désert. Donc on a filmé tout ce qui pouvait se passer comme ça dans un campement, avec des animaux, des enfants, des danses, des... Et puis, effectivement, une occidentale qui était là, retenue comme ça, par rien, quoi. Donc, c'est cette espèce de vie quotidienne qui montre qu'est-ce que c'est d'être prisonnière dans le désert. Et à la fois, il y a une contradiction. C'est-à-dire que c'est des endroits très beaux, lyriques. Puis, il y a un coucher de soleil, un lever de soleil, il y a des crêpes, il y a des petites filles. Et puis, on essaye de vivre. Et le temps passe. Et moi qui ai très peur de l'acteur, c'est vrai que Sandrine est sans doute la seule comédienne et il fallait un petit peu, il y avait un passage à l'acte, mais je pense pas que j'ai non plus que ça soit quelque chose qui m'a transformé parce que c'est imaginaire et à la fois c'est quelque chose de qui s'est vécu sur place et donc c'est une espèce de fable aussi. Donc
tout de même, pour conclure, fiction et parler frais.
La fiction, c'est effectivement quelque chose qui est plutôt rassurant, parce qu'on a un plan de travail, et comme ça on suit un ordre du jour, et puis, mais il faut rester libre aussi quand même, il faut faire attention de ne pas être esclave de la fiction, quoi. Il faut faire attention de ne pas perdre toutes les qualités qu'on a acquis comme ça tout le long de sa vie. Et le parler frais, c'est effectivement les dialogues qu'on a entendus dans Urgence, dans Fait divers, dans Saint-Clément. C'est toutes ces phrases qui naissent d'une espèce de violence contenue intérieure, comme ça, que ces gens qui crient, et qui est un dialogue magnifique, qui est parfois plus beau que ceux qui peuvent être réécrits par des intellectuels, quoi. Et qu'il faut défendre, parce que c'est notre façon de parler. C'est cette façon de sortir les mots. Et c'est parfois c'est d'un poème, c'est de la poésie.
Non, non. N'en coupez pas. Voilà, ce film est terminé. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro. Mais je n'ai pas à répéter. Et nous n'avons pas à recommencer. C'était du vrai direct. Durant le tournage de ce film, ma mère est morte. Puis ce film l'est dédié à mes parents. Je reste photographe, c'est ma famille. Peut-être pour mieux préserver mon cinéma. Je vais repartir en voyage. Le voyage, ça fait partie de moi. En Afrique, au Tchad, au Sahara ou ailleurs.
Non, non, je trouve que les années déclic qui ont servi comme ça de fil conducteur sont toujours d'actualité et je pense que peut-être que l'élément nouveau c'est sans doute le tournage de La Captive du désert, mais je crois qu'il est complètement cohérent avec la recherche d'une certaine authenticité et puis aussi de la mémoire, de rester proche de ces images du passé, parce que les films de cinéma direct que je fais, enfin les documentaires, sont aussi une recherche, une espèce de mise à jour. Il faut toujours faire une mise à jour. C'est comme ça qu'on peut se libérer et qu'on peut repartir sur d'autres choses et chercher, quoi. Il faut toujours chercher, continuer à chercher. Et je pense que c'est ce que je fais. Voilà.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 avril 1990.
Educated fleas, do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets, do it, Lithuanians, and let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam, do it. Not to mention the Finns, folks in Siam, do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means, do it. People saying in Boston, even beans, do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Roe in shallow shows. English souls, do it. Goldfish in the privacy of bones.